Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Comme nous passons l'essentiel de nos journées au travail, la ligne séparant l'aspect personnel et l'aspect professionnel dans nos relations avec nos collègues peut parfois devenir floue.
Avec Louis, ça s'est super bien passé. On a passé pas mal de moments ensemble. On a beaucoup, beaucoup joué aux échecs.
Il est donc fondamental de faire preuve d'un minimum de réserve et de prudence dans les choses que l'on partage auprès de nos collègues.
Hamilton got the launch off the line, goes around the outside, it's in his teammate. Lewis Hamilton turns into George Russell.
Se plaindre à ses collègues d'une directive, du comportement d'un collègue ou d'un supérieur hiérarchique est un grand classique. Mais ce classique aura souvent tendance à provoquer un magnifique effet boomerang.
Come on, Charles, don't do this. They'll keep to give me a position immediately.
Oui, vous pouvez construire de véritables amitiés sincères sur votre lieu de travail. Mais gardez en tête que beaucoup de relations professionnelles ne sont que superficielles et circonstancielles.
Attention, les deux Ferrari
se sont touchés.
Que c'est idiot, que c'est bête.
Veillez donc à faire preuve d'un minimum de retenue et votre carrière vous en remerciera.
N'oublie jamais.
Lewis Hamilton a passé une étape de plus dans sa nouvelle maison. Les derniers tests grandeur nature cette semaine de la SF25 sur le Grand Prix de Bahreïn. Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont poursuivi les essais hivernaux à deux semaines du grand début de la saison en Australie. Le Monégasque a d'ailleurs dominé hier la troisième et dernière journée d'essais. Alors depuis la présentation de la nouvelle Scuderia il y a 10 jours à Londres, les deux pilotes Ferrari affichent leur complicité au point même de disputer en pleine cérémonie une partie d'échecs. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Hamilton, Leclerc, croyez-vous à la merveilleuse entente? Oui ou non? Sarah Pitkowski?
Non, je pense que si c'était le cas, ce serait une toute première.
Fred Weiss?
Évidemment que non.
Évidemment que non. Pascal Duprat?
Moi, je suis toujours contrariant. Je veux dire oui.
Il va dire oui. Et tu as bien raison d'être contrariant.
Il y a des arguments aujourd'hui.
C'est
qui
ce qu'on aime dans cette émission.
Ça pourrait être possible. Hein.
Christophe Cessieux?
Pas une seconde.
Ah, oui. Ah non, c'était trop beau l'entente. Ça a duré 1h30, quoi.
Même pas.
15 minutes.
Allez, un petit débat. Et
un
encore.
Petit débat.
Avant de débattre, on va retrouver notre commentateur F1, c'est Nicolas Paolorsi. Salut Nicolas. Nicolas, c'est une lune de miel rêvée entre les deux pilotes, l'écurie rouge qui voit la vie en rose.
Cette ovation, c'était à Londres, il y a 10 jours, lorsque Lewis Hamilton s'est présenté sur la scène de l'O2 Arena devant 15 000 fans. Un Hamilton nouveau, on l'avait vu parfois usé l'an passé chez Mercedes. Depuis son arrivée chez Ferrari, il dégage l'énergie d'un rookie, d'après le boss de l'écurie Fred Vasseur. La superstar britannique s'adapte à son nouvel environnement.
Je me concentre sur mon intégration dans l'équipe. Ça peut sembler long, mais je ne suis là que depuis un mois. J'ai beaucoup de choses à emmagasiner en peu de temps. On a beaucoup travaillé avec le team et avec Charles.
Sur ces 3 jours d'essai, tous les regards étaient braqués sur Hamilton. La presse italienne a de nouveau réinvesti le paddock pour scruter ses moindres faits et gestes. L'entente avec Charles Leclerc est pour le moment parfaite et le Monégasque ne semble pas souffrir d'être retourné un peu dans l'ombre.
C'est sûr que c'est exceptionnel d'avoir Lewis en tant que coéquipier. C'est une énorme opportunité pour moi. Je l'ai dit, je pense, 150 fois et même à vous, mais je vais me le répéter. Mais l'opportunité d'apprendre de lui et en plus de ça, de montrer ce que je sais faire. Donc, je pense pas que ce sera très compliqué. En plus, ça, avec Lewis, on a vraiment eu un super feeling dès le début. On en avait déjà un très bon avant qu'il rejoigne Ferrari. On a toujours été assez proches. On partage pas mal de passions au-delà de la Formule 1. Donc, on avait toujours quelque chose à se dire. Et ça n'a pas changé depuis qu'il a rejoint Ferrari. Donc voilà, non, ça se passe super bien et ça continuera comme ça.
On sent la complicité entre les deux et tu as raison, JC, aux échecs, ça se cogne sévère entre Hamilton et Leclerc.
Pour l'instant, il y a 1-0 pour moi, mais là, je suis dans le dur. Sur la partie qu'on a en ce moment, j'ai un peu de mal.
Ferrari semble avoir toutes les cartes en main pour retrouver un titre de champion du monde pilote ou constructeur. L'enjeu principal de la saison pour Vasseur sera certainement de conserver cette osmose entre ces deux pilotes.
Merci beaucoup Nicolas Paolorsi pour ces précisions. Vous l'avez entendu, cette lune de miel est parfaite pour l'instant entre les deux pilotes. Je vois le regard des GG. Personne n'y croit, ou presque. Si, Pascal y croit encore. Croyez-vous à la merveilleuse entente? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. La reprise de la saison, c'est dans 2 semaines et ça va forcément être fantastique. C'est dimanche 16 mars à Melbourne. Pourquoi non, Sarah?
Pourquoi non? Alors déjà, quand on voit ce qui se passe depuis 15 jours, cette attractivité médiatique d'Hamilton cumulée au prestige de Ferrari, on en prend plein les yeux. Hein. Et donc, en fait, ça renvoie Leclerc au rang de spectateur en termes de notoriété.
Oui, pour l'instant, ce qu'il est en train de dire, pour l'instant, il dit ça ne me dérange pas, au contraire,
exactement.
C'est génial.
Finalement, effectivement, le fait d'être un petit peu en retrait, la pression et les projecteurs vont être sur Hamilton. Donc, peut-être que ce statut-là lui convient en disant « Je vais travailler de mon côté avec mes ingénieurs. Regardez Hamilton, vous allez voir ce qui va se passer. »
C'est sûr qu'ils n'ont pas d'égo du tout, hein, Sarah. Je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas du tout d'égo. Ouais.
Tu vois, après cette bonne entente de façade, j'ai essayé d'aller chercher quand même. Et puis, alors là, je suis tombée sur un truc. Il y a une étude qui a été menée par une université anglaise qui donc a travaillé, en tout cas qui a étudié sur le fait de posséder deux grands pilotes dans une saison. C'est pas du tout une bonne idée. Et là, vous me voyez venir. Il y a quand même un cas. Non, je suis allée quand même un peu plus récemment.
Rosberg, Hamilton.
Exactement. En 2014, effectivement, cette étude a été faite en 2014. Et selon cette étude, qui porte sur 30 années de F1, avoir deux top pilotes dans une écurie, c'est néfaste. Mais en plus, ça conduit à une baisse de performance, des performances individuelles des uns et des autres. Alors, la seule solution pour que ça puisse marcher, c'est toujours la même chose. Il faut que la stratégie, elle soit claire. Qui est le numéro 1 ? Et qui est le numéro 2? En tout cas, l'année 2014 entre Rosberg et Hamilton, pardon, ça a été défini, mais ça n'a pas été respecté pour autant.
Le problème, c'est que la hiérarchie, elle va s'établir, elle peut s'établir en cours de saison, en fonction des résultats des uns et des autres. Si Leclerc domine régulièrement Hamilton ou l'inverse, il y aura un pilote qui sera privilégié pour la fin de saison pour essayer d'obtenir plus de victoires et pour essayer d'aller chercher un
Vasseur
titre.
Vasseur a dit qu'il voulait les deux titres, hein. Constructeur et pilote.
Mais
hein,
ça veut dire qu'au début, les mecs vont se tirer la bourre comme des malades.
Leur concurrent principal, c'est le mec qui est à côté dans la même voiture.
Mais ça s'appelle une saine émulation.
Ton premier concurrent, ton premier rival dans une course de Formule 1, c'est ton coéquipier.
Oui.
Parce qu'il avoir la même voiture que toi. Donc, c'est le premier que tu dois battre pour ensuite avoir justement quelques petits privilèges de premier pilote. Après, moi, j'adore ça, hein. Moi, j'adore ça. J'adore quand les pilotes vont vraiment se tirer la bourre. J'ai détesté un moment dans l'histoire de la Formule 1, c'est quand Schumacher était le maître absolu chez Ferrari et qu'il avait un vassal, un grégario, on appelle ça en vélo, comme deuxième pilote et qui faisait tout pour que.
Mais pourtant Leclerc avec Sainz,
ils étaient deux contre un, quoi.
Oui.
Non. Leclerc, il a l'air docile. Vous pouvez dire ce que vous voulez.
Tendu sur la fin, Pascal. Hein.
L'année dernière, ça a été compliqué entre les deux quand il fallait
faire passer
l'autre.
Pour nourrir le débat, parce qu'autrement, les auditeurs vont s'ennuyer avec vos arguments.
Ouais, mais c'est donc un peu quand Ferrari était Barrichello. On s'ennuie avec toi. T'es un peu le Ferrari des grandes gueules du sport.
En fait, ce que je voudrais simplement vous dire, il y a bien sûr la glorieuse incertitude du sport, mais ils incarnent. Pardonnez-moi, je vais pas être très tendre avec Hamilton, mais ils incarnent deux générations. Il y a passé, il y a le futur. Et je pense qu'Hamilton, aujourd'hui, il a envie de séduire la Scuderia. Il est heureux d'être là. Il prolonge son rêve. Il a certainement de hautes ambitions. Mais comme l'a très bien dit.
Et tu sais qu'il a battu Leclerc sur les deux journées d'essai, hier et avant-hier.
Mais sur les essais, ça veut dire quelque chose malgré tout. Mais on va attendre les 15 jours qui viennent et surtout le premier Grand Prix. Mais moi, je pense une chose, c'est que Leclerc, il a aucune raison de vouloir des relations tendues avec Hamilton, parce que comme il est intelligent, il va profiter de son expérience. Et tu sais ce qui va régler le tout ? Je pense sincèrement, je me mouille. Hein, je pense sincèrement que Leclerc va d'amener le pion à Hamilton
Et donc, il y aura pas de
les ambitions sont antinomiques. À part le fait d'être champion du monde des constructeurs avec Ferrari, mais Hamilton, il rêve de quoi dans cette saison? Il rêve, un peu comme un Pogacar, d'avoir tout gagné avec Mercedes, et ensuite, en changeant d'équipe et en allant dans la voiture la plus mythique, la voiture rouge, celle qui fait rêver tous les pilotes, d'être à nouveau champion du monde avec cette voiture. Et là, son rêve de pilote parfait serait accompli. Et je pense qu'il vient pas en pré-retraite chez Ferrari. Loin de là.
C'est bien ça le problème.
Je suis absolument d'accord avec toi.
Ancien qui est justement comme ça, qui a envie de continuer.
Mais il a la pavre aux lèvres, Hamilton.
Un plus récent qui a envie d'être aussi à
fond.
Il y a pas de leader déterminé. Les deux vont se battre les uns contre les autres. À un moment, tu peux pas avoir cette amitié. Et bon, j'ai pas fait les mêmes études que Sarah par rapport à ça, mais moi j'ai un poulailler et j'ai deux coqs. Et dès que je mets deux coqs dans le poulailler, ça se bastonne.
C'est la merde.
Donc à un moment, il faut pas deux coqs.
Il y a comme une
faut déterminer celui qui est le meilleur.
J'ai François qui nous dit via le direct studio. Bonjour les GG du sport. Déjà bonjour à toi François. L'entente entre Hamilton et Leclerc ne sera possible que si Hamilton se met au service de Leclerc.
Ouais. Qui semble
je vois comme ça
semble impossible.
Compte là-dessus et bois de l'eau fraîche.
Une passation de pouvoir malgré tout. Moi je vois ça comme ça parce que les résultats vont faire que Leclerc va aller plus vite que Hamilton.
Mais je ressens
c'est un compétiteur pour
mais c'est un tigre Hamilton. Mais c'est un tigre Hamilton, mais rappelle-toi ce qu'il était capable et de
Leclerc
faire sur
aussi.
Le pisme. Mais justement
aussi.
Mais c'est justement pour
justement
ça que je te dis
coques.
Que ça va chauffer
deux,
quoi.
Non mais c'est deux garçons extrêmement intelligents et quand Leclerc dans son interview dit qu'ils s'entendent bien depuis plusieurs années, c'est vrai.
Mais bien sûr,
ils ont
rappelle-toi de ce que disait Prost et Senna. Quand Senna est arrivé dans l'écurie McLaren, Prost était aussi un pilote déjà confirmé. Il aurait pu se dire, je vais passer le relais à mon coéquipier brésilien.
Oui,
tu crois que c'est ce qui s'est passé?
Ils avaient déjà gagné tous les deux. Oui.
Non, mais des coureurs de ce niveau-là, ils n'arrêtent jamais dans leur tête. Jamais ils veulent passer le pouvoir. Ils veulent être les meilleurs. Ils veulent gagner.
Senna n'était pas champion du monde. N'avait jamais été champion du monde. Et comme Leclerc ne l'a jamais été. Donc Leclerc va vouloir faire comme fait Senna, c'est-à-dire prendre la première place. En plus, il était en quelque sorte le premier pilote la saison dernière. L'avoir arrivé à Hamilton, il n'est plus tout à fait le premier pilote. Donc, quelque part,
quand tu compares avec Prost, il me semble qu'Hamilton a vraiment, vraiment beaucoup gagné.
Mais il veut encore plus.
Titre de champion du monde. En fait, Prost avait encore les dents qui rayaient le parquet, comme c'est pas possible. Même si Hamilton a encore envie de gagner, je te rejoins dans ce que tu dis, je pense que la course va démontrer que Leclerc est plus rapide. Donc fatalement, ça tombera sous le sens qu'ils deviennent tout d'un coup à son service.
Donc ils ne seront pas potes. Il est en train d'expliquer Pascal qu'ils ne seront pas potes.
Pourquoi ça m'amène à une double question.
On a enregistré les bandes.
Si on fait avancer le débat,
ça dans un mois.
Si on essaye de faire avancer le débat, on sait que Frédéric Vasseur, que l'on avait eu d'ailleurs dans Bartoli Time, a déclaré fin décembre qu'il n'y aurait pas de hiérarchie, qu'il n'y aurait pas de numéro 1. Est-ce que la position de Ferrari, après ils se sont mis tout seuls dans cette position, mais bon, qui refuserait d'avoir Lewis Hamilton, la position de Ferrari, elle est quasiment intenable parce que tu peux pas désigner le numéro 1 et le numéro 2 maintenant. On est bien d'accord là-dessus. Imaginons que Leclerc gagne les deux premiers Grands Prix. Imaginons. Est-ce que vous voyez quand même Ferrari annoncer et dire Leclerc est notre numéro 1 quand tu viens d'embaucher Hamilton.
Saison à l'approche du titre.
Et c'est-à-dire quoi pendant la course, Hamilton va recevoir des consignes, on laisse le passer
pas tout de suite.
Si Leclerc gagne.
Oui, donc imagine la situation, Hamilton, on va lui dire, laisse passer.
Ouais, mais c'est ce qui est arrivé avec Russell et
la situation quand même.
Franchement, mais vous oubliez aussi la concurrence. Mais si Leclerc gagne, ça voudra dire qu'Hamilton n'est pas loin. Et ça voudra dire donc que Ferrari domine le championnat. Et moi, je trouve ça bien. Si on a premier, deuxième, Hamilton et Leclerc, je fais vite l'économie de Verstappen. Hein. C'est pas dit encore tout ça.
Oui, t'as raison.
Mais admettons que ça fasse premier, deuxième. Et moi, je rêve de voir ça. Qu'ils se battent pour le titre alors qu'ils sont qu'ils concourent pour la même écurie.
Et après, ils vont jouer aux échecs.
Je voudrais le voir.
Au concours de baf.
Ouais, je crois plus au concours de baf qu'au concours d'échecs.
Alors, nous aussi, on a envie de voir Ferrari 1 et 2. Enfin, on n'oublie pas les autres, comme tu l'as dit. Citer Verstappen, il faut citer aussi les McLaren avec Lando Norris.
Les McLaren, les Williams qui remarchent bien.
Mais ce qui serait intéressant, là c'est sûr, la merveilleuse entente, s'ils se disputent le titre de champion du monde, là ça risque d'être peu plus complexe.
Bien sûr.
On va accueillir Nicolas qui veut réagir au 32-16. Bonjour Nicolas.
Bonjour les TGV, ça va ?
Bonjour.
Bonjour.
Ça va et vous ?
On va très bien. Nous on s'entend parfaitement bien. À deux, trois exceptions près, mais on s'entend bien.
Je déteste tous.
Oui, on le sait, Christophe. Mais toi Nicolas, est-ce que tu crois à cette merveilleuse entente ?
Non, pas du tout. Pour moi, c'est que de la communication. Pour moi, ça va être la guerre entre les deux. S'il y a de la performance, bien sûr, si Ferrari est performant, parce qu'il ne faut pas oublier McLaren, même Mercedes, le petit Italien Antonelli, là, il fonctionne pas mal en essai libre. Et puis Red Bull, Verstappen. Mais par contre, si ça joue pour le titre, Charles Leclerc, faut qu'il monte l'écrou. Et à un moment, ça fait 6 ans qu'il est dans la scuderia Ferrari. Apparemment, c'est le prodige, mais il y a un moment, faut qu'il fasse. C'est la même génération de Max Verstappen, mais il y a un moment, faut qu'il joue le titre, quoi. Faut qu'il y aille. faut qu'il arrête d'être gentil, faut qu'il arrête, parce que là ça va être contre Lewis Hamilton et en fait ça va être un peu le méchant. Parce que tout le monde va croire que bah, il combat Lewis Hamilton, ça va être un peu le méchant. Mais sauf qu'il faut qu'il soit méchant, faut qu'il joue pour le titre, parce qu'il a, pour moi, il a le potentiel pour être champion du monde. Et pour Lewis Hamilton, pour moi, je pense que c'est la fin. C'est très beau ce qu'il fait, c'est bien ce qu'il fait d'aller à faire un scuderia derrière Ferrari. Mais pour moi, le, par rapport aux performances qu'il a eues avec Mercedes, il s'est fait battre par Russell. Pour moi, Russell, c'est pas non plus un champion du, un futur champion du monde. Et même s'il met la tunique rouge, je veux dire, Vettel, après les quatre titres, a mis la tunique rouge, a pas gagné de championnat, quoi.
Ouais, mais je pense que Hamilton sur sa dernière saison chez Mercedes était un peu en roue libre. Il avait plus la motivation, mais que la motivation il l'a retrouvée en changeant d'écurie et en prenant la voiture rouge. Et on va voir. Et je l'espère en tous les cas de quel bois il se chauffe et s'il reste le grand pilote qu'il a été. On rappelle septuple champion du monde quand même.
Et c'est dans deux semaines.
C'est pas rien.
Donc le Grand Prix de Melbourne, et forcément on en reparlera dans les grandes gueules du sport. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous.